Test. Good afternoon, everyone. Are we ready to start?
Bonjour à tous. Est-ce qu'on est prêt à démarrer? Merci beaucoup d'être avec moi cet après-midi. C'est vraiment un endroit superbe. Et la lumière est aveuglante d'où je me tiens, mais c'est vraiment une très belle salle et je me sens privilégiée de vous adresser la parole sur les nouveaux GTLD. Quand j'étais jeune, ça a commencé, on a publié le premier guide, et bien, regardez-moi maintenant à 29 ans.
The now standard second slide.
Deuxième dia. Je crois que tout le monde ici dans cette salle est très au courant du nouveau programme GTLD, mais je vais quand même prendre une petite minute pour dire qu'on va discuter du guide pour présenter une demande individuellement ou en tant qu'organisme pour obtenir un nom de domaine. Alors, il y a 6 modules dans cette brochure. Alors, le premier module, c'est une révision du processus dans son ensemble. Il décrit également qui peut faire une demande, combien ça va vous coûter, le processus que vous suivez, et tout le processus en ligne pour le TLD, on appelle CAS, avec des calendriers, des délais, et combien de temps est nécessaire pour traiter de cette demande. Alors le modèle 2, c'est vraiment le plus important de cette brochure. C'est le processus de toute demande, l'évaluation initiale. Les demandes sont évaluées de 6 façons différentes pour déterminer leur éligibilité pour obtenir un TLD. Et ce sont les critères et questions qui donnent des réponses qui sont mesurées, tester la viabilité financière du demandeur, les questions techniques, est-ce que le nom est très semblable à un autre et qui entraînerait confusion pour l'utilisateur, quels sont les services offerts par le nouveau registrant. Est-ce que ça va créer des problèmes éventuels de sécurité, de stabilité? Donc voilà les tâches. Il n'est pas dans l'intention de ce processus de faire de cette démarche quelque chose d'extrêmement difficile. Mais il faut s'assurer que certains critères de base sont respectés. Et cette brochure vise à aider le demandeur à comprendre ce qui est compris dans la gestion d'un TLD. Donc faire une demande, remplir une demande, ça vise aussi à renseigner le demandeur quant à tout ce qui est impliqué dans la gestion d'un TLD. L'évaluation en elle-même est présenté pour fournir des informations en tant qu'aide et non pas en tant qu'obstacle à tout demandeur. Alors, les modules 3 et 4 jouent un rôle moindre. Le module 3 décrit 4 raisons de rejet. Certains individus ou certaines entités rejette certains noms et donc ça tourne autour de ce concept et éventuellement les procédures d'appel. Alors, le module 4 décrit ce qui se passe si les strings posent problème. Donc, 2 entités demandent le même nom et comment est-ce que vous départagez? Et ça, c'est décrit dans le 4e module. Dans le 5e module, on met le demandeur sur la voie de la délégation. C'est le processus de délégation et l'accord qui est proposé, tout ce qui est joint. Et puis, le module 6, ce sont toutes les conditions. Et je devrais ajouter un écran pour cela, mais je ne le fais pas. Je crois que on devrait passer directement à la dernière dia. Je crois qu'une présentation mercredi s'appelle les nouvelles bases GTLD pour... Excusez-moi, ça interrompt l'orateur. Mardi. pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiarisés avec le nouveau processus GTLD, eh bien vous pouvez répéter le cours, redoubler en quelque sorte. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Eh bien, l'ICANN a publié récemment la quatrième version de cette brochure pour le guide de l'utilisateur. Et il y a eu beaucoup de commentaires publics qui ont été recueillis, des consultations, et on a reçu tout ceci à Nairobi il y a quelques mois, une excellente réunion d'ailleurs. Et c'est de cela dont il s'agit. Mais cela traite également d'autres choses qui ont trait au lancement de ce processus. La participation publique a remporté un vif succès. Je crois qu'on peut vraiment se féliciter. Tous ici à l'ICANN, dans cette salle, ont travaillé ensemble pour assurer cette phase du processus. Alors, il y avait encore quelques questions à régler. À quel point nous sommes proches d'une solution? Et qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous espérons améliorer l'espace, le nom de l'espace, avec un espace plus sûr, plus stable, plus fiable. Et le nouveau TLD offre choix et concurrence. Mais ils sont également conçus, grâce au travail qui a été réalisé, pour offrir un environnement plus stable, plus sûr, plus convivial, avec des noms plus conviviaux. Alors, c'est trois des quatre puces de la prochaine présentation sur ce sujet. Alors, les nouveaux GTLD, c'est vraiment la communauté ICANN et comment elle travaille ensemble. L'élaboration de politiques est parfois lent. Il y a peu de politiques qui sont le résultat d'un consensus. Mais pour parvenir à un bon produit, il faut susciter la compétition, la concurrence de la bonne façon pour obtenir quelque chose de stable. On a travaillé de façon unique ces derniers mois pour résoudre certaines difficultés intrinsèques au guide. Auparavant, on ne pouvait pas dire distinguer IRT, STI, et TGD, TDG. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que ces groupes de travail se sont réunis et dans de très brefs délais et ont réglé des questions éminemment épineuses. Et si ces résultats, ces solutions ont été pris en compte dans ce nouveau guide de l'utilisateur, guide du demandeur. Et c'est vraiment une bonne chose pour moi et pour le personnel de l'ICANN, comme pouvant se prévaloir d'un succès. Le modèle des parties prenantes, un modèle ouvert. Et on s'est tous regardés, on s'est dit, eh bien, ça c'est un problème qui n'incombe pas au personnel de solutionner. On a ces groupes transversaux de multi-parties prenantes avec différents intérêts. Ils se sont rassemblés, se sont réunis. Ils sont parvenus à des consensus sur des questions difficiles. Et je pense que c'est vraiment un des moments phares de cette réunion. Quand on parle de transparence, de reddition de comptes, du modèle ICANN, de la gouvernance Internet et comment aller de l'avant. Alors, on parle des nouveaux GTLD, leur rôle et les règles. C'est vraiment, je crois, quelque chose qui démontre le succès de l'ICANN. Vous avez un diagramme. Et depuis le premier guide, il y a de nombreuses années, tous ces groupes se sont créés au fil du temps, améliorer les choses pour que la prochaine version puisse être publiée. De par le monde, il y a eu différents groupes de travail, deux en Amérique latine, deux en Afrique, deux en Asie, à Abu Dhabi. On s'est réunis pas mal de fois sur Internet et physiquement. Et il y a eu bien des nuits passées à travailler au téléphone. Certaines équipes étaient mondiales et ça a été vraiment un travail intense. Et alors, quel est le résultat de ce travail? On a la quatrième version de ce guide On a publié une version redline afin que les modifications comparées à la troisième version puissent apparaître clairement. Permettez-moi de vous expliquer le raisonnement. On a publié un processus d'accord, un protocole d'accord, et outre le protocole d'accord, l'explanatory memorandum, il y a bien d'autres domaines. Et il y a le rapport indépendant de 6 groupes de travail et il y a également d'autres documents qui ont été publiés et un nouveau budget GTLD dont je parlerai d'ici peu parce que c'est un budget séparé du budget de l'ICANN, parce que les timings étaient différents. Ça ne collait pas avec l'année fiscale. Cela définit les coûts nécessaires pour le lancement du programme et son exploitation. Et ensuite, il y a la phase 1 de ce qui va être une étude économique en deux phases pour répondre à toutes les questions finales sur l'avantage net des nouveaux TLD. Alors, je pourrais surtout vous parler de ce qui fonctionne, mais qu'est-ce qui reste encore à faire? Alors, à Nairobi, qu'est-ce qu'on a indiqué qui restait à régler? Eh bien, pour le personnel et la communauté, au cours des différentes consultations, certaines choses ont clairement émergé dans l'accord de registraire. Il y avait deux questions majeures, l'intégration verticale et le processus d'amendement de l'accord. Deux questions éminemment difficiles, il y a des parties intéressées, il y a des membres de la communauté qui ont des intérêts particuliers et les solutions à ces deux problèmes sont publiées dans le guide. Il y a des questions ayant trait au nom géographique, nom de pays. Est-ce que ça doit être délégué? Il y a encore aussi les TLD qui doivent encore être affinés. Il y a des langues. Alors, je suis américain, donc on utilise des symboles au lieu de lettres. Et là, vous pouvez imaginer que c'est très délicat. Il y a la protection des marques aussi. On a élaboré des modèles et c'est maintenant dans le guide. Il y a des mécanismes de protection qui font partie du plan. Enfin, l'atténuation et les comportements malveillants. On va parler de tout ça. Et à cette fin, je vais demander à Carol Hans de me rejoindre. Alors, vous la connaissez. Elle est responsable de chaque terme dans le guide parce que c'est elle qui l'a rédigé en consultation avec les experts de l'ICANN, les experts de la communauté, à travers de rapports, de réunions. Mais il n'en reste pas moins que pour le GTLD et le nouveau guide porte sa marque.
Thank you. So there were a
Merci. Donc, il y a eu des modifications de la version 3 à la version 4. À l'écran, ce sont les principales modifications dont je vais parler aujourd'hui. Il y a également un nombre de petites modifications pour préciser quelque chose suite à des commentaires publics. Quand les gens estimaient que ce n'était pas clair, ils demandaient davantage d'explications. Et c'est aussi le type de modification que l'on a apporté. Alors, je vais me concentrer sur les modules 1, 2 et 5 qui contiennent le plus grand nombre d'amendements. Allons-y. Le module 1 est une introduction du processus et il comprend également beaucoup d'informations sur différents domaines. Et l'un de ces domaines, c'est quel type d'entités peuvent faire une demande pour un nouveau GTLD. Et une des parties qui traite de cela est une discussion qui a eu lieu au sein de la communauté au sujet des protocoles d'intégration qui sont la propriété de registraires et de registrants. Et ce que l'on a inclus dans la version 4, c'est la position par défaut qui interdit une copropriété entre ces entités. Alors c'est une position par défaut parce que nous savons que il y a un travail et une discussion, une collaboration en cours au sein de la communauté et on s'attend à ce que les résultats de cela nous permettront d'aller au-delà et de modifier ceci. Le module 1 comprend également une partie consacrée aux exigences IDN. Un demandeur qui demande un string IDN au plus haut niveau, il y a des exigences supplémentaires et des informations qui sont nécessaires à cette fin. Et dans cette partie, nous avons inclus une discussion sur les variants. Ces caractères sont des caractères qui peuvent être remplacés ou se remplacer les uns les autres. Donc, dans l'enregistrement de noms de domaine, il y a des scripts dans lesquels 1, 2, 3 caractères ou plus sont considérés comme des variants et donc peuvent se remplacer les uns les autres. Et un variant, un string TLD variant, pourrait donc être un string qui remplace l'un de ces caractères par un autre. Donc vous pouvez demander un string TLD et l'inclure dans votre demande différentes suites de caractères pour ce TLD. Dans la version 4 de ce guide, différentes chaînes TLD ne seront pas déléguées à court terme. Et la condition préalable pour une délégation dans ce cadre, c'est le développement, l'acceptation et le test, donc tout ce mécanisme pour cela. Et donc c'est ça qui est reflété dans la quatrième version. En outre, dans le module 1, il y a toutes les étapes de l'examen d'une demande. Dans cette version, on a davantage de détails sur les différentes phases du processus et beaucoup plus de détails que dans la version antérieure, la version 3. Donc on a pu inclure des dates, des délais et les dates de notification après remise de la demande, les différents renseignements concernant la demande qui seront publiés publiquement et comment donc les délais aussi pour commentaires du public et comment ceci influe sur la demande. Et puis il y a un code de conduite par un panel d'évaluation. Et on a demandé dans les commentaires qu'il y ait davantage de débats sur la façon dont l'ICANN traite des violations éventuelles. Ceci a également été inclus. Il y a également davantage de descriptions sur la façon dont on demande un enregistrement dans le système TLD, quel type de renseignements sont demandés, comment vous compléter votre demande pour l'adresser à l'ICANN. Et enfin, il y a une description des vérifications contextuelles qui sont menées quant à chaque demande et comment ça fonctionne.
So moving on to module 2.
Alors, on passe au module 2. Ce deuxième module considère toutes les différentes étapes et je vais parler ici de deux choses. Les IDN 3 characters qui sont des exigences. Alors, il y a une exigence que toute chaîne demandée comporte au moins 3 caractères distinctifs. Et ceci, suite aux commentaires de la communauté, notamment au sujet des IDN. On a revu donc cette exigence et maintenant l'exigence d'IDN comporte une exigence de 2 caractères et dans certains cas, les chaînes peuvent poser problème. L'autre domaine où l'on a apporté des modifications, ce sont les noms géographiques au top level. Alors, suite aux avis du GAC, on a exclu les noms territoriaux et de pays du guide pour le premier cycle de demandes. Et le CCNO traite maintenant des CCTLD IDN. Et pour ce qui est des noms géographiques, nous avons également inclus un exemple d'une lettre de soutien en venant d'un gouvernement au cas où tout autre nom géographique fasse l'objet d'une demande en tant que TLD. Il y a une exigence de la part du demandeur de fournir des preuve soutenant ou indiquant qu'il n'y a pas d'objection quant de la part de l'autorité publique ou du gouvernement concerné. Ça a suscité beaucoup de questions et il fallait se mettre d'accord sur qui devait en faire partie et qui devait le signer. Donc là, on donne des indications. Alors, le module 5, là, il y a des modifications. C'est la transition vers une délégation. Et c'est là que vous trouvez toutes les exigences pour que votre demande soit couronnée de succès. Et vous signez alors un accord avec l'ICANN et vous devenez un opérateur. Donc là, il y a toutes les normes qui vont être d'application, les exigences aussi qui vont s'imposer à ce nouvel opérateur. Et il y a tout d'abord ce qu'on appelle le Trademark Clearing House, un courtage des marques. Ça a été grandement évoqué. C'est tout l'archivage des marques dans une archive centralisée. Concernant tous les droits qui ont fait l'objet d'une démarche. Et selon le nouveau GTLD, il y a une obligation de faire une enquête préalable pour protéger ces droits de marque utilisant les données de la clearinghouse. Prendrait la forme d'une clause d'échéance ou des services de requête. Il y a également une autre exigence, une fois qu'il y a eu accord signé, c'est un appel qui peut être déclenché si quelqu'un pense qu'il y a une infraction de ses droits. Alors cela complète le URP. Et l'intention avec ce système, c'est avec le système URS, c'est de parvenir à une suspension rapide à un coût réduit comparé à l'UDRP. Et donc il y a eu une évolution. Donc il y a l'utilisation équitable des noms de domaine qui est prise en compte.
Post-delegation dispute resolution.
Donc la résolution de conflit par rapport à la résolution du postage fonctionne avec les noms de domaines enregistrés dans les TLD. On peut entamer un litige contre un opérateur d'un bureau d'enregistrement pour une série de raisons. Tout d'abord, pour une raison liée à une marque commerciale. Par exemple, un détenteur de droits prétend que l'opérateur du registre systématiquement encourage des enregistrements en mauvaise foi ou agit de manière inadéquate en violant des droits. Dans ce cas-là, ce type de procédure pourrait être entamé. Alors l'autre cas, ça peut être le cas d'une candidature basée sur la communauté. Si un groupe où un membre de la communauté pense que l'opérateur du registre ne remplit pas la mission issue de la communauté qui a été notée au moment de leur candidature. Alors, normalement, cela doit être consigné dans leur accord, dans le cas d'une candidature dont la base est une communauté, issue d'une communauté. Donc, il y a deux mécanismes disponibles pour traiter ce type de litige. Alors, les exigences d'accès, c'est un autre... En fait, il y a un modèle actuellement par lequel les opérateurs GTLD doivent permettre l'accès à leurs fichiers de zone. Alors, c'est fait d'une manière individualisée maintenant. Donc, ce que le groupe de travail ZFA a fait, c'est proposer un modèle standardisé pour ce faire, un environnement avec un grand nombre de GTLD, ceux qui sont intéressés par l'accès et l'utilisation des données du fichier de zone peuvent avoir un seul point d'accès pour ce faire. On attend aussi que cela réduise une partie du fardeau administratif, du travail administratif pour le registre en standardisant l'accès et les formats de données. Il y a toujours de la place pour que les opérateurs de registre et d'autres introduisent des services individualisés qui correspondent à leurs circonstances particulières. Alors, dans le module 5 de l'accord, il y a une discussion sur le modèle de processus de transition du registre. Il y a un mémo explicatif sur ce sujet qui rentre pas mal dans les détails et des étapes par lesquelles l'ICANN pourrait passer au cas où un opérateur de registre GTLD n'accomplirait pas une de ses fonctions fondamentales. Donc l'intention est de créer un environnement avec un certain nombre de GTLD pour qu'il y ait un processus qui soit préétabli en cas d'urgence. Et nous devons trouver un fournisseur de secours pour continuer à réaliser ses fonctions critiques et poursuivre le service aux registrants. Ou dans un autre cas où éventuellement ce n'est pas une urgence, mais où il y a une circonstance où quelqu'un arrête son activité commerciale ou souhaite opérer une transition pour une autre raison. Donc ces deux processus sont explicités dans le guide et les accords sont rédigés en tenant compte de ces processus. Alors finalement, l'accord de registre lui-même est une pièce jointe au module 5, est une annexe au module 5 et il y a trois des changements principaux qui se trouvent ici. Le premier est le processus des amendements futurs. Donc il y a une version actuelle de l'accord de registre et il peut y avoir un cas où une ou les deux parties peuvent souhaiter modifier les dispositions qui s'y trouvent. Et donc le processus qui a été inclus permet des amendements futurs lorsqu'ils sont soutenus par l'ICANN et les registres affectés. Et il y a un processus sur la manière dont ils peuvent être approuvés et mis en œuvre. Il y a aussi une nouvelle disposition concernant le changement de contrôle et c'est lié à l'éventuelle acquisition d'un opérateur de registre ou sa vente ou si d'une autre manière leur accord ou leur responsabilité sont assignés à une autre partie. Donc c'est une nouvelle disposition qui requiert le consentement de l'ICANN dans ces cas-là. L'intention est d'assurer qu'une partie ne reprenne pas le contrôle d'un registre GTLD qui a été examiné, passé au crible ou évalué ou examiné par l'ICANN, qui n'a pas été du tout examiné ou passé au crible par l'ICANN. Finalement, il y a d'autres passages dans l'accord qui doivent s'appliquer dans le cas où le candidat est une entité intergouvernementale ou une entité gouvernementale. Dans ces cas-là, il y a des dispositions qui pourraient être légèrement modifiées et un exemple de celle-ci est inclus dans l'accord de registre. Et maintenant, je vais rendre la parole à Kurt Spritz.
Thank you, Carol. We're back on? Thank you. That was great.
Merci pour ta présentation. Donc, c'est un exemple de la manière dont nous avons intégré, ou tenu compte de la quantité de changements qui se produisent. Voici le nouvel accord de registre GTLD proposé. Alors, je vais passer très rapidement sur l'accord. Voici les changements qui ont été opérés depuis le modèle numéro 1. Bon, il ne reste pas grand-chose, comme vous pouvez le voir, de l'original. Alors deux choses. Ou bien nous n'avons pas fait un tellement boulot lorsque nous avons rédigé la version originale, mais je ne dirais pas ça de nous-mêmes. Ou la seconde possibilité, c'est qu'il y a eu énormément de consultations, de discussions de la communauté, de négociations sur la manière dont cet accord devait être mis en place et comment il pouvait au mieux protéger les registrants et créer un environnement concurrentiel où de nouvelles opérations commerciales pouvaient prospérer. Donc ce sont deux des objectifs de ce processus qui sont aussi ancrés dans les déclarations de mission de ICANN. Alors, pour revenir à la, si on pouvait revenir à la présentation, le résultat final, au bout du compte, c'est que nous voulons vraiment améliorer le DNS, nous voulons améliorer le namespace, l'espace de nom, nous voulons le rendre stable et prévisible pour ceux qui l'utilisent. Nous voulons aussi qu'il soit flexible pour que nous puissions encourager l'innovation, donc pour que l'introduction de nouveaux domaines de premier niveau soit vraiment une plateforme, une opportunité singulière. Et à la demande des membres, à la demande insistante des membres de la communauté, si on en revient à la réunion du Mexique, on a vraiment identifié deux problèmes essentiels liés à la protection des marques commerciales et à l'atténuation des effets des conduites néfastes. Donc il y a des mécanismes de protection qui se trouvent dans le guide. Donc des mécanismes de protection des droits et qui étaient déjà dans les pré-numéros. Ils étaient dans d'autres guides, dans d'autres documents, et c'est en fait une sorte de chambre de compensation des marques commerciales qui soutiennent les services liés aux IP, à l'URS, aux services de suspension uniforme et rapide, et ça permet aussi de gérer les litiges post-délégation losque les détenteurs de droits peuvent présenter des réclamations contre les registres pour leur conduite discriminatoire dans la manière de conduire le registre, de gérer le registre s'ils violent les accords. Donc ces nouveaux droits, ces nouveaux mécanismes de protection de droits sont censés protéger sur l'ensemble des opérations du registre. Et ce que j'essaie de dire, c'est qu'il couvre les inspirations des registres dans leur pré-lancement, dans la phase de pré-lancement et de lancement, et aussi protège les opérations en cours. Donc, la clearinghouse, cette chambre de compensation, donne une protection aux détenteurs des droits au moment où le registre commence ses opérations et lorsqu'ils sont ouverts aux utilisateurs, lorsque les registres sont effectivement lancés. Il y a d'autres mécanismes de protection des droits qui donnent des garanties aux détenteurs de droits. Alors, donc, le système de suspension uniforme et rapide, le processus de post-délégation. Alors, il y a une exigence pour que les nouveaux GTLD maintiennent et entretiennent des bases de données WHOIS très importantes pour faciliter les recherches par des enquêteurs. Et bien sûr, nous avons aussi l'UDRP, le mécanisme de solution de conflits. Qui existe déjà, qui est déjà en fonctionnement. Si vous regardez l'environnement des GTLD actuels, c'est déjà un environnement très stable où les utilisateurs commerciaux prospèrent et il y a beaucoup d'opportunités qui sont créées à travers ces mécanismes. Nous avons des droits supplémentaires, des mécanismes de protection supplémentaires des droits au premier niveau et au second niveau. Donc, outre les mécanismes de protection des droits, nous avons entendu un message important de la part des communautés. Nous devons agir pour atténuer l'impact des conduites malveillantes. Il y a beaucoup de nouveaux GTLD. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y aura autant d'opportunités de conduite malveillante? Et Greg Rattray, qui est le principal conseiller de sécurité Internet de ICANN, diriger cette consultation de la communauté, va vous présenter les résultats. Merci. Bonjour à tout le monde. Comme Kurt mentioned, cette partie du travail, cet effort sur les nouveaux GTLD a commencé sur base de la réunion de Mexico. Donc, Karen et Kurt ont abordé des aspects de ces problématiques. Ce que je vais faire en quelques minutes, c'est vous montrer la série de choses qui ont été développées pour répondre aux préoccupations de la communauté qui ont été exprimées par rapport à la conduite malveillante. Donc, nous avons réalisé une consultation, nous avons demandé à toute une série de groupes avec lesquels nous avons interagi. Donc, en fait, le centre de ce processus a été la rencontre de Sydney. Au mois de juin, nous avons eu toute une série de panels sur les conduites malveillantes. Et différents groupes d'experts nous ont expliqué ce qu'étaient les problématiques. Ah oui, pardon, je ne parle pas dans le micro. Je vais devoir contrôler ma voix si je dois parler dans le micro. Donc, sur base des problématiques qui ont été identifiées par les experts, nous avons publié une étude qui est sortie en octobre, diapo suivante. Alors, ce que nous avons décidé de faire, nous avons décidé de créer toute une série de mesures d'atténuation qui pouvait être inclus dans le guide. Je vais vous expliquer exactement où ça se trouve. Mais l'idée, c'était aussi de démarrer un travail sur deux programmes qui ont déjà été mentionnés. L'accès aux fichiers zone et le programme TLD de haute sécurité. Alors, les six premières mesures sont incluses d'une manière ou d'une autre, dans un aspect ou l'autre, du guide préliminaire pour les candidats. Donc, il y a des dispositions qui permettent de comprendre les qualifications, mais aussi les antécédents, et qui vérifient qui fait fonctionner les nouveaux registres GTLD. Alors, on demande que les candidats aient un plan concret pour le déploiement des DNSSC, des extensions de sécurité. Et cela inclut être capable de signer des zones avec DNSSC au début des opérations. Alors, empêcher les nouveaux GTLD de faire du wildcarding. Et ça a été renforcé aussi par une résolution du conseil d'administration sur le même sujet. Donc, on a identifié un problème qui est les enregistrements de call orpheline, orphan glue records. Donc, ils sont liés à des conduites malveillantes. Donc, on a exigé des registres qu'ils présentent un plan sur la manière dont ils ont l'intention d'éliminer ces enregistrements et aussi avec les protections pour des marques commerciales, des exigences similaires pour ceux qui travaillent sur des activités, sur des enquêtes. Alors tout cela a été rédigé dans le guide numéro 3 qui bien sûr où ils sont déjà dans le projet et ils le seront dans la nouvelle version. Alors, il y a une autre mesure que nous avons mise en place et qui est le résultat du ConfigureWorm, de la réaction ConfigureWorm. Alors, dans ce processus, nous avons permis une demande très rapide au registre et au registraire, au bureau d'enregistrement, si c'était des problèmes qu'il fallait résoudre tout de suite pour combattre une situation particulière. Le cas particulier dans le cas de Comficker était qu'il allait mal utiliser un grand nombre de noms de domaine. Il y avait toute une série de manières de bloquer l'utilisation de ces noms de domaine et nous voulions avoir une procédure rapide qui ne pose pas de problème contractuel si un registre voulait entreprendre une action rapide dans le cas d'un problème de sécurité. Donc, nous avons mis ce processus en place et il est actuellement en place. Et le projet de guide signale des documents où vous pouvez trouver les détails de la procédure de sécurité accélérée. Alors, par rapport à l'accès au fichier zone, j'ajouterai que l'exigence était que dans une situation où il y a un nombre limité de registres et où on peut travailler sur 13, 12, 10 accords séparés si on est une organisation qui travaille, qui lutte contre la fraude, une organisation de protection des marques commerciales. Mais si le nouveau programme GTLT arrive à des vingtaines ou même des centaines de domaines de premier niveau, les répondants voudraient avoir une sorte d'endroit unique où ils peuvent aller et une normalisation dans leur obtention d'informations liées aux fichiers zones qui leur permettent de faire leur travail en termes d'identification d'activités malveillantes. Donc le groupe de travail, je vais vous montrer le lien dans une seconde vers leurs efforts. Mais ce groupe, en fait, a terminé son travail et il est présenté pour recueillir les commentaires du public dans les mémorandums explicatifs du guide, du projet de guide pour les candidats. Et il recommande la manière de mettre sur pied cette clearinghouse, cette chambre de compensation. Alors, une petite explication. En octobre, avec le troisième projet de guide pour le candidat, nous avons publié un article conceptuel pour ce que nous avons appelé un domaine de haut niveau à haute sécurité. À ce stade, on l'appelait un programme de vérification. Nous avions tendance à y faire référence en tant que programme de certification dans le travail qui est actuellement en cours. La notion ici, donc il y a deux notions importantes. Tout d'abord, c'est un programme volontaire. Il ne fait pas partie du processus de candidature. Par conséquent, il n'y a pas de disposition spécifique pour obtenir une certification TLD haute sécurité. C'est une option pour ceux qui voudraient proposer, qui voudraient demander de nouveaux GTLD ou ainsi que pour les TLD existants. Nous avons laissé la portée du programme ouverte pour ce qui doit être une zone de haute sécurité pour inclure ce qui doit se passer au niveau des registres, au niveau des registraires, et il y a même des obligations au niveau du registrant. Donc l'ensemble des processus et des commandes qui doivent être nécessaires pour donner une certification, tout cela dans l'intention d'augmenter la confiance des utilisateurs dans une telle zone. Et il y a une contribution très importante, particulièrement du secteur de bancaire et des finances, mais d'autres dans la communauté de sécurité qui sont capables de créer des zones d'une telle nature serait également une proposition à haute valeur ajoutée dans un environnement où il y a un grand nombre de TLD. Donc, pour l'avenir, nous pensons que le travail qui a été fait jusqu'ici, le travail qui a été fait jusqu'en octobre pour mettre ça dans la troisième version du guide du candidat, donc les efforts qui sont encore en cours pour créer une approche maniable avec une forte participation de la part des registres impliqués ainsi que de la part des personnes qui utilisent les fichiers zones pour créer un concept viable pour une chambre de compensation de l'accès aux fichiers zones. Donc il y a il y a une série de mesures. Je vais vous montrer dans les prochaines diapos des mesures qui créent des perspectives pour de nouveaux GTLD, pour que ces nouveaux GTLD soient plus suffisamment sécurisables. Nous faisons des progrès sur les problématiques liées aux conduites malveillantes. Au lieu de, nous ne voulons pas, bien entendu, empirer la situation. Alors, vous trouverez sur la diapo une synopsis de l'application de ces neuf mesures. On vous indique où elles ont déjà été mises en œuvre, où les progrès qui ont été réalisés et les effets que nous pensons que cela aura. Donc, ça se trouve sur le premier link sur la diapo devant vous, et ensuite la proposition faite par le groupe consultatif de l'accès aux fichiers zone a aussi le lien, propose aussi le lien, ainsi que ce que nous appelons un cliché du travail en cours pour le groupe consultatif des TLD de haute sécurité. Je remarque que ce groupe a fait un sérieux lifting en termes d'identification d'une série de commandes complètes qu'ils estiment nécessaires dans un TLD de haute sécurité. Donc si vous y croyez, si vous voulez regarder, examiner ce type de commandes que la communauté responsable de sécurité en particulier estime nécessaire pour créer le climat de confiance nécessaire, donc ce travail se trouve sous forme de tableau de cette structure de commandes dans la zone de haute sécurité, du cliché du groupe consultatif sur le lien sur la diapo. Donc tout cela se trouve dans les mémos explicatifs ainsi que dans la version 4 du guide du candidat. Par conséquent, nous sommes ouverts aux commentaires soit sur le travail qui a été réalisé, sur les autres mesures, et nous espérons que l'accès aux fichiers zones est quelque chose que ICANN devrait développer et mettre en œuvre, et le groupe consultatif de la zone de haute sécurité accueillerait très favorablement tout commentaire sur leur travail en cours. Alors, où pensons-nous que nous avons besoin de mesures de sécurité liées au domaine de premier niveau générique? Ce que nous avons fait dans le travail du groupe de travail, dans les propositions, nous avons créé une situation future, des noms qui soient beaucoup plus fortes pour les utilisateurs et pour les activités qui pourraient se produire dans ces domaines. Et encore une fois, je ne sais pas si quelqu'un veut mieux comprendre le processus accéléré de sécurité du registre, nous pouvons leur fournir des explications supplémentaires. Mais maintenant, je te rends la parole. Je m'arrête ici.
Thanks, Greg. That was terrific. So, getting ready. Be still, heart. What do we have to do?
C'était fantastique, Greg. Merci. Donc, alors que devons-nous faire? Il y a des choses dont nous devons nous débarrasser pour lancer le processus. Alors, comment ICANN se prépare-t-elle à administrer le processus de candidature lui-même? Le processus d'évaluation et comment seront-elles capables de fournir ces services à un grand nombre de nouveaux domaines de premier niveau. Alors, tout d'abord, les deux premières questions, nous y sommes confrontés depuis un certain temps, elles sont peut-être surprenantes pour vous, mais vers la fin, en avançant vers la fin de la première phase d'une étude économique de deux phases a été publiée immédiatement avant cette réunion. C'est une étude du marché existant sur base d'études qui ont déjà eu lieu auparavant, mais cela reflète également l'opinion des économistes qui ont réalisé l'étude, Greg Rost et Michael Katz, en ce qui concerne les avantages potentiels des nouveaux GTLD, les coûts potentiels et le nouvel environnement, le réseau et quel est l'avantage en termes de réseau et si le net peut bénéficier du programme, eh bien c'est bien et cela décrit aussi les bénéfices concurrentiels pour les propriétaires des TLD, les avantages sociaux, les avantages dont nous bénéficierons également nous tous, cela décrit les coûts de détention des marques commerciales, les coûts des conduites malveillantes, les autres coûts, les coûts de la gestion d'un TLD associé dans un environnement où il y a beaucoup de GTLD. Il y a beaucoup de suggestions dans le rapport sur les avantages supplémentaires et comment maximiser les avantages qui peuvent être réalisés à ce stade. Ça se trouve dans le rapport sous la forme de suggestions qui doivent faire l'objet d'études. La seconde phase de l'étude qui sera prête au cours des prochains mois nous dira réellement quels sont les avantages net des nouveaux GTLD, comment ils peuvent être maximisés et comment les coûts peuvent être minimisés. Et donc, nous en sommes à un accord de principe sur le fait que la seconde phase de l'étude prendra la forme d'une étude de cas, et nous allons y inclure des collectes de données et des analyses empiriques pour pouvoir en dériver les résultats quantitatifs et décrire les avantages nets des nouveaux GTLD. Alors, et bien sûr, nous attendons tout cela. Alors, l'évolutivité de la zone racine est une question sur laquelle la communauté technique ICANN a beaucoup travaillé. Et normalement, il s'agit de se pencher non seulement sur l'introduction de nouveaux domaines de premier niveau, bien sûr, dans la zone racine, mais l'introduction pratiquement simultanée de DNSSEC, qui est un grand succès. On en a parlé à cette réunion. IDN, c'est un autre grand succès. IPv6 et d'autres TLD, presque simultanément. Alors, c'est une tempête complète pour les DNS, mais c'est aussi une tempête complète, un succès remarquable, je pense, pour cette communauté. Et une étude indépendante a été fournie. Le personnel a préparé un document qui a prévu, qui fait des prédictions sur les taux de délégation pour différents volumes de candidatures, de demandes de GTLD. Et une autre communauté technique se penche sur ces rapports. Et va fournir des conseils à ce sujet.
Ça a souvent été évoqué par le passé. Le budget des nouveaux GTLD, ou un nouveau budget pour les GTLD. Pourquoi en a-t-on besoin ? Eh bien, parce qu'il y a des dépenses significatives qui devront être effectuées. Et quel est le calendrier ? Eh bien, celui-ci est incertain. Nous voulons prévoir ces dépenses avec prudence du point de vue fiscal. Si vous avez besoin de nouveaux bureaux pour évaluer des applications, on ne va pas louer cet espace avant le lancement du programme. Et pour ça, il faut en connaître la date de lancement. Et ça, de façon à éviter de dépenser de l'argent bêtement fourni par la communauté Internet à l'ICANN. Donc, ce budget est en dehors du cycle budgétaire normal de l'ICANN. Et donc, la meilleure façon de faire ceci, c'était de créer un autre budget séparé. Celui-ci a été publié pour commentaires publics. Et une fois que ces commentaires publics seront livrés, eh bien, il y aura proposition et adoption d'un budget, tout comme le budget annuel de l'ICANN est affiché publiquement, discuté et approuvé. Et donc, c'est fait de façon transparente. Et la raison pour laquelle nous voulons également que ce soit un budget séparé, c'est parce que c'est un budget d'exploitation. On a fait des calculs et on a $185,000 pour l'application et c'est un 158,000 pardon. Et ça ne va pas générer de revenus. L'ICANN va recevoir pas mal d'argent, va en dépenser pas mal et le fait de séparer ceci de l'exploitation du fonctionnement général de l'ICANN est important pour que ce budget ne devienne pas une pieuvre. Donc je vous encourage à examiner ce budget. On tiendra compte des commentaires publics et élaborons un budget qui puisse être adopté par le Conseil. Nous voulons également tenir compte de ce qui a été dit à la réunion de Nairobi avec une suggestion comment les demandeurs peuvent obtenir un soutien. Pas seulement un soutien financier, mais il y a bien d'autres façons dont on peut soutenir les demandeurs par de l'éducation sur l'opération de DNS, les DNS eux-mêmes, des informations techniques. Et donc un groupe de soutien transversal au SOA qui inclut les groupes de soutien et les conseils consultatifs a été formé à cet effet, a déjà élaboré une charte pour leurs travaux en cours. Alors comment est-ce que l'ICANN se prépare à gérer ce programme ? Il faut mettre en œuvre le processus d'évaluation des demandes avec les acronymes, parce qu'on a l'habitude des acronymes. Donc pour le système en ligne des TLD par lesquels on soumet une demande, et il faut des panels d'évaluation et donc qui fournissent un service, un fournisseur, et tout ça implique une structure. Et il y a beaucoup de travail qui a été réalisé. On a un guide de procédure qui va couvrir les opérations au jour le jour. Certaines sont des procédures administratives sur la façon dont l'organisation qui examine les demandes est mise sur pied, les processus d'examen, d'évaluation des demandes. Ensuite, il y a également des panélistes. Il y a une façon ouverte de le faire. L'ICANN lance un appel à proposition de ceux qui souhaitent fournir des services d'évaluation. Il y a un processus d'examen pour identifier les meilleurs candidats qui peuvent fournir des services de qualité suffisamment nombreux à l'échelle mondiale à un coût raisonnable. Donc on sélectionne des candidats, on organise un entretien et on les sélectionne. Dans de nombreux cas, trois quarts de ce processus, au moment de retenir des services d'évaluation, il faut que ce soit fait à temps. Alors vous avez un diagramme. Hein. Et donc voilà, ils sont à l'écran et vous essayez de lire. Tout ceci pour indiquer que pour les panels d'évaluation de l'évaluation technique, financière, similarité des chaînes, évaluation prioritaire pour les communautés, tous ces processus doivent faire l'objet d'une évaluation très détaillée pour retenir un certain nombre d'entreprises hein, ou des recommandations en vue de retenir certaines entreprises. Alors, il y a des choses que je n'ai pas lues. Et il y a également la question de du règlement des litiges et les différents types d'objections qui peuvent être soulevées dans ce nouveau processus. Les fournisseurs sont repris sur une liste et maintenant nous sommes sur le point de retenir des fournisseurs de services pour les protections de nouvelles marques. Donc, système de suspension uniforme rapide de la clearinghouse. Il y aura très bientôt un appel à proposition pour fournir ces services. Alors, comment est-ce qu'on fait cela? Alors, on vient de publier le guide numéro 4. Et le public sera invité à commenter au mois de juillet. Je crois que tout le monde ici qui a déjà lu cela est familiarisé avec le processus et la façon de faire des commentaires. On entend des intervenants ici dans la salle. Il y a une analyse qui est menée à bien. On ajuste ensuite le processus à la lumière des commentaires. Alors, est-ce que ce sera la dernière version de projet, de guide? Eh bien, il appartient à la communauté ICANN et à vous. Quand le Conseil peut examiner les commentaires, et les itérations, les modifications pour la prochaine version, c'est quand il n'y a pas suffisamment quand la communauté estime que le guide est satisfaisant, les modifications doivent être suffisamment substantielles, motivées par les commentaires du public. À ce moment-là, eh bien, on pourra effectivement dire que c'est la dernière version du guide. Alors, permettez-moi de répéter cela. Beaucoup de solutions dans cette version du guide sont venues de la communauté. Le PDDRP, le processus de délégation après litige, tout ça, c'est l'accord sur les registraires, tout ça, ça provient de la communauté. Et en tant que membre du personnel de l'ICANN, c'est quand le guide sera accepté largement par la communauté qu'il sera effectivement abouti. Donc on peut faire des recommandations pour une décision du comité quant à une ultime version comme projet du guide. Ensuite, il faudra achever l'étude économique, élaborer le budget pour le programme, obtenir l'approbation et continuer avec les activités opérationnelles pour dégager un plan de programme, continuer à exécuter notre stratégie de communication et nos recommandations politiques. Et ensuite, s'assurer que personne de par le monde nous dise après que le processus soit achevé, ah ben j'en avais pas connaissance. Et puis ensuite, finir l'étude d'évolutivité de la zone racine et fournir un soutien aux demandeurs. Et ça, c'est les tâches qui nous restent à faire. Donc, je vous encourage à tous lire tous ces documents, parce que c'est vraiment de grandes décisions qui vont changer les choses, nous l'espérons, pour le mieux. Et nous avons joué un rôle dans ce processus et nous voulons vraiment que vous vous saisissiez de la dernière possibilité de commenter pour changer ce guide et l'améliorer. Alors, vous pouvez poser des questions. Je l'ai dit, il y avait une session TLD mardi, une séance IDN mercredi qui va se centrer sur les variants et dans le processus accéléré. Et il y a également une séance sur les marques qui est prévue. La gestion des marques dans la nouvelle ère des GTLD. Et mercredi, il y a également un séminaire pour éliminer les obstacles. Et c'est vraiment l'aide à apporter aux demandeurs conformément à la résolution de l'ICANN émergente de la réunion de Nairobi. Merci à notre président pour ce bel effort. Et tout au long de la réunion et des différentes séances, je vous invite à vous saisir de toutes les informations qui sont fournies aux parties prenantes et aux groupes d'intérêt. Et je vous encourage vivement à participer, à vous mettre au courant de ce qui se passe. Je vous remercie et je veux remercier Karen et Greg qui nous ont aidés. Et je veux vraiment remercier tout le personnel de l'ICANN pour le travail qui a été réalisé. Et surtout, remercier tout le monde pour leur participation aux EFA, HSTLD, STI, IRT et IDN. Et merci beaucoup à tous.
We have a team here.
Nous avons une équipe ici et on va tenter de répondre à toutes questions que vous pourriez soulever ou bien répondre par la suite puisqu'elles sont versées au compte-rendu de la réunion. Merci. Je représente la coalition pour la reddition de comptes. J'ai des questions, mais je veux me centrer essentiellement sur ce que Greg a évoqué. Et la zone TLD à haute sécurité, la proposition qui concerne cela. Je suis d'accord. Il est clair que le guide a posé les bases pour ce qu'un registrant doit faire pour se protéger des comportements malveillants dans le nouveau GTLD. Ça, c'est vraiment un pas en avant. Et je vous salue pour avoir fait cela. Mais comme Greg l'a dit, il y a des domaines de haut niveau où il est nécessaire de s'assurer que la confiance est là avec des normes de plus grande qualité. C'est le HTLD qui l'a proposé. Mais cette proposition continue d'être un programme volontaire. Et donc, il n'y a aucune incitation qui est donnée dans le processus d'évaluation pour que tous se mettent à ce niveau-là. Alors, je vais répéter un exemple mentionné tellement de fois. Si quelqu'un veut un dot bank, ils n'ont rien à gagner dans le processus d'évaluation en répondant aux normes HTLD, à partir du moment où ils se contentent de remplir les exigences de base. Et nous, à plusieurs reprises, avons mis le doigt sur ce problème et avons exhorter à ce que certaines choses dans le HTLD fassent partie des règles de base. Et on n'a pas réussi à convaincre le personnel de le faire. Alors, je vais vous proposer une approche différente. Il y a-t-il dans le guide, à l'heure actuelle, ou est-ce qu'il devrait y avoir dans le guide, pour quelqu'un qui est convaincu que répondre aux exigences de base n'est pas suffisant pour un domaine de haut niveau, de formuler une objection ou par tout autre biais d'inviter l'ICANN à examiner si pour un TLD particulier des exigences plus élevées doivent être imposées. Vous pouvez dire que quelqu'un abuse de votre marque, vous pouvez vous fonder sur des intérêts de la communauté et ce n'est pas une objection. Voilà. Quelqu'un qui répond aux exigences de base, ouvrir un TLD, serait exposé à la fraude, à des activités illégales. Est-ce qu'il devrait y avoir la possibilité de soulever une telle objection? Et peut-être ceci pourrait concerner le chapitre indépendant. Merci. On a eu ces discussions avec les représentants des finances et des banques. les origines de, du travail sur la haute sécurité. Et Karen, je veux vraiment compter sur vous pour ne pas me tromper. Au mois d'octobre, il était précisé qu'il y aurait un exemple d'objection comme quoi un demandeur ne présenterait pas un niveau de sécurité suffisamment élevé tel que présenté dans la demande. Et je crois que nous avons effectivement noté ce critère d'objection potentielle. Mais ça mais ce serait dans le cas où les exigences de base sont remplies. Alors quelqu'un qui soulève une objection sur cette base, ça implique que vous organisez toute la communauté derrière vous, indiquant que quelqu'un ne présente pas un niveau de sécurité suffisant. Ce sont deux questions séparées. Il y a l'objection de la communauté qui dit que vous ne exploitez la communauté indûment. Une objection sur base sécuritaire, c'est de dire que ce TLD, même s'il répond aux exigences de base, n'a pas suffisamment de protection contre des conduites malveillantes et devrait donc être réexaminé. Je pense que ce sont deux questions distinctes. Deux normes différentes. Et je ne vois pas pourquoi quelqu'un devrait répondre aux exigences liées à la communauté. On en a beaucoup discuté avec Kurt. Ça devrait se trouver dans la sphère de la communauté. Mais il me semble que c'est totalement distinct des préoccupations ayant trait à des comportements malveillants et qu'il n'y ait pas de protection suffisante. Philippe Shepherd, je m'exprime au nom de AIM, l'Association européenne des marques. Alors, la clearinghouse des marques, dans la version actuelle du guide, vous avez introduit, je crois, certaines discriminations assez complexes qui sont potentiellement arbitraires, qui ne sont pas de bonnes choses à nos yeux. Je vais expliquer pourquoi. Il y a le choix donné aux industries quant à la façon dont elles utilisent recours à la clearinghouse pour les marques. C'est-à-dire un système de notification avec une clause Sunrise. Alors, si il y a une telle clause, eh bien, ça veut dire que la marque a dû faire l'objet d'une révision approfondie. Alors, substantive review, en anglais, c'est un terme vague, difficile à définir. Et ce que vous faites par ce biais, c'est que vous introduisez une discrimination entre différents registres de marques de par le monde. Et par ce biais, vous faites un jugement arbitraire quant à la qualité de ces registres de marques de par le monde. La révision en elle-même n'a pas à voir avec la qualité d'une marque. C'est une question de choix de registraire de marque, que ce soit national ou international, sur la façon dont ils souhaitent administrer le système. Est-ce que vous voulez un système rapide pour nos utilisateurs, pour l'innovation, ou bien est-ce qu'on veut quelque chose de plus lent? Ça n'a rien à voir avec la qualité ultime de la marque. Et en introduisant cette différence entre les uns et les autres, eh bien, je crois que vous vous rendez coupable d'arbitraire et d'indiscrimination superflue. Et vous introduisez des complexités. Donc moi, je vous exhorte à ne pas le faire. Donc c'est ou l'un ou l'autre qui doit s'appliquer. Mais le concept que vous introduisez est une surcharge, c'est une complexité dont on n'a pas besoin. Ça va générer plein d'autres problèmes. On peut en discuter, mais il y a différentes façons dont une marque peut être la propriété d'un registraire, que ce soit sur base d'une juridiction ou d'une revision approfondie. Mais c'est validé par des processus juridiques. Alors si la clearinghouse a validé la marque par le même processus, eh bien, il y a une exigence préalable de UDRP, une audition en UDRP. Donc la communauté et le conseil ont demandé que l'on élimine cette discrimination. Et je pensais qu'on pouvait... Je regarde vers Amy. Il y a une différence entre Sunrise et des allégations IP. Et là, toutes les marques enregistrées dans ce dernier, où que ce soit, doivent être la propriété de registrer. Ah oui, madame, c'est exactement ce que je disais. C'est un élément de discrimination que vous introduisez. Et c'est inutile. Et c'est vraiment ça. Il y a cette distinction entre l'un ou l'autre. Et c'est justement là la discrimination. C'est superflu et c'est motivé par les mauvaises raisons parce que l'objectif, c'est d'avoir la confiance du public. Il ne s'agit pas de la protection de l'IP en lui-même. Mais il s'agit de la confiance du public. Alors, s'il y a un intérêt privé qui est repris ici, il faut quand même un équilibre entre la confiance du public qui est beaucoup plus nombreux que des intérêts privés qui pourraient être couverts. Un IP claim, c'est une revendication. Le Sunrise, c'est plutôt l'enregistrement. Donc, toute marque enregistrée peut faire l'objet d'une notification comme quoi cette marque existe. Il pourrait y avoir une différence entre les règles que les registraires doivent respecter en matière de marque. Merci de vos commentaires. Alors, on va peut-être entendre un commentaire de quelqu'un qui suit en ligne. Alors, je parle au nom de participants en ligne sur Internet. Il y a une première question. Eric Idiate. Nous suggérons d'ajouter au paragraphe 2.2.1.2 l'organisation régionale de CCOTOD. C'est lu à toute vitesse par la dame. Donc, les quatre organisations régionales, AFT, AFTLDA, PTLD, ENTR et LACTLD, comme non réservés, tout comme ARIN Lactique, les IP, les organisations régionales des TLDPI sont repris directement dans le processus et les interprètes non plus. La personne qui fait le compte-rendu de la réunion ne peut pas suivre et les interprètes encore moins. Le relire, ce serait une très bonne idée à une vitesse plus raisonnable de mon requête des interprètes, humblement. Donc, la question suivante vient de Charles. Comment est-ce que le centre d'échange, le Clearing House, va compiler à partir de plusieurs banques de données de marques est-ce qu'il y a un autre moyen plus rapide? Alors, je me tourne vers Amy pour m'assurer que j'ai la bonne réponse. La Clearing House, ce sont des détenteurs de marques qui demandent à être inclus dans la banque de données. Ces détenteurs de marques ont enregistré leur marque dans d'autres juridictions ou ont eu leur marque validée au travers d'un processus devant un tribunal ou bien ont demandé à la Clearing House d'approuver leur marque et peuvent demander à être inclus. Et la banque de données est fondée sur une seule demande d'inclusion des détenteurs de marques. Et il n'y a qu'une Clearing House, un centre d'échange, même s'il y a de nombreux registraires. Et ça doit être une solution économique pour les détenteurs de marques. Puis-je lire la dernière intervention en ligne demandée à Zaïd? Alors, comment est-ce que les demandes qui ne sont pas ISO 3166 peuvent être examinées? Comme par exemple .england, .eng. Eh bien, il n'y aura pas de délégation de noms territoriaux, de noms de pays en premier lieu. Ceux-là sont définis très précisément dans le guide. Je vais essayer de le faire ici en n'étant pas très précis. Il y a les noms abrégés, les noms en toutes lettres, donc selon la liste ISO qui est 3166. Et il y a trois lettres, ce sont des abréviations de trois lettres. Il y a les noms et puis il y a aussi des abréviations de deux lettres. Il y a également une autre d'autres travaux réalisés par le personnel de l'ICANN pour éliminer toute confusion ou ambiguïté. Donc s'il y a des noms combinés, on réserve les deux noms. Et puis après, il y a les permutations de ces noms et ensuite les traductions. Donc le mieux, c'est de se référer à la liste ISO 3166. Zahid, bonjour. Bonjour, Kurt. Zahid Jamil, je m'exprime personnellement à Karachi. On pratique beaucoup de sport. Et il y a un problème de contestation de propriété de terre qui pourrait avoir des conséquences multiples. Il y a eu un impact géologique et environnemental convenu, mais qui n'était pas considéré comme une exigence préalable. Après une négociation longue, il y a eu un projet de législation. L'analyse d'évaluation sur l'impact et l'évaluation géologique ont eu lieu. Et il y avait la notion de risque inconnu, notamment de fracture terrestre, sismique. Et l'analyse d'impact sur l'environnement n'était pas possible puisqu'il n'y avait pas de données statistiques disponibles et on a recommandé la collecte de données. Il a été également dit que le processus devrait, contrairement à ce qui était proposé, l'orateur se reprend, fondé sur un équilibre social entre intérêts sociaux et privés, mais le processus de négociation n'est pas achevé pour l'instant. Donc on a demandé, mais comment est-ce qu'on peut avancer avec toutes ces contraintes, ces difficultés? Alors je vous invite à faire œuvre de prudence avec ces nouveaux GTLD dans le cadre de l'étude d'évolutivité de la zone racine et l'étude économique, parce qu'on a entendu des recommandations pour les études. Il y a un risque pour l'Internet et on a entendu tout cela à Nairobi. La question, est-ce qu'on n'a pas mis la charrette avant les bœufs? Alors, lancer les nouveaux GTLD ou pas et mesurer les avantages et les inconvénients. C'est une considération politique. Le travail initial a été entrepris par le GNSO au cours de leur processus d'élaboration politique et ils ont décidé d'établir cet équilibre et que l'ICANN devait lancer ce processus et a ajouté de nouveaux TLD. Et ses propres processus avec les différentes parties intéressées. Si cette communauté estimait qu'il n'y avait pas d'intérêt, mais ils ont décidé du contraire. Et donc on a lancé le processus. Alors les questions ont surgi quant aux avantages nets des nouveaux GTLD. À mesure que les informations ont été disponibles concernant les coûts de protection des marques, les coûts éventuels de comportements malveillants, les litiges, il y a eu d'autres questions qui ont surgi plus précises, plus spécifiques. Alors je crois que vous avez tout à fait raison. Et étant donné l'orientation politique, nous allons passer à la mise en œuvre du plan et faire en sorte que ceci fonctionne. Il y a des informations préliminaires sur l'évolutivité de la zone racine et des études économiques réalisées et publiées indiquant que l'on devrait aller de l'avant. Mais il y a encore des points d'interrogation. Alors oui, nous restons très prudents lorsque nous lançons des études économiques et procédons à l'évolutivité de la zone racine. Sinon, notre conseil nous dit arrêtez, ou la communauté. Et si nous percevons ces signes, c'est ce que nous faisons. Donc c'est un exercice d'équilibre.
Simplement comme avertissement, l'économie dit qu'il doit y avoir un résultat financier, le Nibargrave dit qu'il doit y avoir des séries limitées et on vous demande d'obtenir ces données, ce que j'espère que vous allez faire. J'espère qu'on n'aura pas juste un feedback, mais que les choses que j'ai remarquées sur l'étude de l'analyse économique signifient que la structure et les principes de base par lesquels le DAG avance peut aussi subir un impact ou en bénéficier. Donc je voulais juste de exprimer cet avertissement.
My name is Bernard Staub. I speak for the personal capacity.
Hi, Warren.
There's a couple of small things, actually. We saw that there's a registry restrictions dispute resolution policy, but it's striking, I feel, that it is only for community TLDs. There could be, you know, a standard TLD that commits to certain policies that suddenly then says, now, instead of just using it for that specific purpose, we're using it for something totally different, and thus affect other communities. So I think the same thing should apply just about to anybody who does not respect the initial commitments. That is one element. The other element is somehow related to earlier questions, and specifically what Steve said about representativeness. I think we lack in the current guidebook a clear definition of what we mean by representative organization. It sounds sometimes as if a representative organization.
Dans le guide actuel, une définition claire de ce que nous voulons dire, de ce que nous parlons d'organisation représentative. C'est, quelquefois, on dirait que l'organisation représentative est juste une organisation si, qui est, comme je l'ai dit auparavant, un spécimen de l'espèce. Vous savez, une banque peut dire « je veux d'autres banques » parce que vous êtes, bon, bah, vous voyez bien, vous êtes une banque, mais ce n'est pas ça l'idée. Nous devrions ajouter de la spécificité dans le sens qu'il faut que ce soit une organisation qui est reconnue pour pouvoir parler et agir au nom de la communauté. Il y a d'autres questions, bien sûr, qui sont liées au fait que pour une communauté donnée, il peut y avoir plus qu'une organisation de ce type. Je pense que nous avons répété, nous avons un problème dans le guide si nous disons qu'une communauté qui a une organisation représentative serait automatiquement protégée contre toute objection. Même si une autre personne est dans une position adéquate pour présenter une objection, est-ce que il ne faudrait pas invoquer une bonne raison?
Thanks, Warner. So I'm embarrassed to say I can say the.
Je suis désolé d'admettre que je ne peux pas dire le mot RRDRP très rapidement, mais en fait les restrictions de registre RRDRP ont été ciblées lorsque vous faites la demande d'un domaine de premier niveau, lorsque vous identifiez comme un TLD de communauté, vous en retirez un avantage, non? Et c'est simplement une orientation politique. Vous avez la priorité en tant que TLD de communauté. Et donc, il y a une obligation de suivre les restrictions qu'on s'est engagé à suivre ou à appliquer pour bénéficier de cet avantage au départ. Et donc la raison pour laquelle c'est comme ça, et on peut en parler davantage, mais la raison pour laquelle c'est limité au TLD basé sur les communautés, c'est qu'il n'y a pas d'avantage qui est octroyé à d'autres. Ils sont considérés comme des entreprises qui peuvent devenir des registres et qui peuvent, dans le cadre des restrictions selon lesquelles ils ne peuvent pas faire du tort ou porter préjudice à la sécurité DNS ou à la stabilité DNS et ne sont pas anticoncurrentiels, etc. Et s'ils font toutes les choses qui font partie de la mission de l'ICANN, alors ils sont libres de gérer leur TLD du moment qu'ils font toutes ces choses et ne font pas de tort aux autres registrants. Donc c'est une discussion intéressante quant à savoir si le rôle de l'ICANN doit être de superviser continuellement la mission originale des TLD, assurer qu'ils adhèrent à ces principes ou leur donner la liberté de changer leur modèle d'activité si les conditions changent ou si les circonstances changent. Moi, je ne Je ne n'imposerai pas cette responsabilité à l'ICANN si c'était simplement la responsabilité de tout un chacun prenant un engagement. Non, mais cela imposerait une charge, une responsabilité au registre. Et c'est une question philosophique de savoir si un registre peut avoir la permission de changer son modèle de fonctionnement, son modèle d'activité. Aussi, on doit exiger d'eux qu'ils se tiennent au modèle d'affaires et d'activités proposé à l'origine. Donc, si quelqu'un dit non, mais ça va, du moment qu'ils ne font pas ça, nous n'allons pas avoir d'objection.
Yeah, I got it. Yeah, causing harm is bad.
Donc, faire du tort, c'est pas bien.
One question, okay. Thanks, John. Go ahead.
Hello.
Une question? La Valenti du staff de l'ICANN, du personnel. Nous avons une question de Jim Fleming. Est-ce que ICANN sait que dans le secteur, les softwares, les changements et les hardware changent tellement rapidement et rendront vos plans obsolètes? Par exemple, vous travaillez sur DOS et les utilisateurs seront en Windows avant que vous ayez terminé vos études. On pourrait faire des blagues sur la manière dont, sur le délai nécessaire pour les nouveaux GTLD, pour mettre en œuvre le processus du nouveau GTLD. Il y a beaucoup de choses qui seront obsolètes au moment où ce sera lancé. Je voudrais vous féliciter avec votre équipe sur les efforts et le travail que vous avez réalisé. Pour toute la documentation réalisée, vous avez travaillé très dur pour faire tout cela. Alors, dans la mesure où nous parlons de délai, je voudrais simplement faire une suggestion pratique et dire qu'à la lumière du fait que la prochaine réunion de l'ICANN aura lieu dans 5 mois et demi, je propose que l'on réserve un moment en septembre pour un sommet sur les nouveaux TLD en tant que communauté n'importe où dans le monde pour résoudre les problèmes qui subsisteraient encore. Et on a fait ça pendant le développement de la politique de GNSE sur les nouveaux TLD. Nous étions ici à Bruxelles. Ensuite, nous avons une seconde réunion face à face, un sommet sur les nouveaux TLD à Los Angeles. Donc, nous avons eu ces deux réunions physiques et je suis sûre que vous vous en souvenez. Moi, je propose que l'on réserve un moment et un endroit maintenant. Je suis sûre que l'équipe responsable des événements ne sera fâchée sur moi, mais je suggérerais que nous mettions quelque chose sur le calendrier pour septembre avant la retraite du conseil d'administration pour que nous puissions, en tant que communauté, nous rassembler et résoudre les problèmes restants et passer à la prochaine phase de cette nouvelle odyssée TLD.
So John alluded to a board.
John a fait allusion donc à un atelier du conseil d'administration qui aura lieu en septembre. Ce sera une session de 2 jours qui sera consacrée au nouveau GTLD et qui passera en revue les problèmes restants. Je suis désolée. Nous entendons très mal l'orateur. Je suis Anthony Vancouver. On m'a rappelé une évaluation importante. Donc, on m'a rappelé en matière d'évaluation qu'il y a un problème sur lequel j'apprécierais qu'ICANN me donne des conseils et c'est lié à la pratique très répandue de l'enregistrement de marques commerciales pour les nouveaux GTLD. Au moins, je peux supposer que l'intention de remettre en question cette pratique, nous savons qu'aux États-Unis où il y a une évaluation à ce sujet. Ils ont été les avoués, alors que dans d'autres juridictions, ce n'était pas le cas. Donc j'aimerais bien que ICANN nous donne des informations par rapport à la validité de ce type d'enregistrement. Alors, en fait, il y a des conseils, des orientations qui se trouvent dans le guide. Il faut trouver la bonne page, mais pour une partie du processus Sunrise, qui est le processus par lequel une entité peut trouver un nom, il y a une validation où on demande d'étayer ou de prouver que la marque commerciale est valable avant que le registre doive honorer cette marque commerciale dans le processus Sunrise. Je pense que vous ne m'avez pas compris. Je ne parle pas d'enregistrement de marque commerciale du point de vue des domaines de second niveau, mais bien de premier niveau, comme par exemple les enregistrements de DOT, que quoi que ce soit, qu'on mette après, comme marque commerciale, pour pouvoir avoir le dessus dans tout type de litige. Donc je suis désolée de vous interrompre. Donc enregistrer le nom DOT quelque chose comme marque commerciale. Il y a une clause spécifique dans le guide qui dit que même si ces noms de domaine sont enregistrés comme marque commerciale, ils ne sont pas honorés comme des marques commerciales dans le processus de lancement. Est-ce que j'ai dit ça correctement? Merci. J'aimerais bien voir ça. Je vais le retrouver, je vais le chercher. Michael, tu voulais poser une question? Bertrand a le micro. Bertrand Lachapelle, français. Tout d'abord, je voudrais répéter dans un contexte public l'échange que nous avons eu, que j'ai eu avec Kurt, qui suggère d'utiliser la typologie potentielle pour le batching, pour la création de l'eau. Et alors, si tu pouvais un peu élaborer là-dessus. Ensuite, la principale période du nouveau programme GTLD ou des programmes de nouveau GTLD sera la période de post-délégation par définition. Donc, ce sont les années qui vont s'écouler pendant lesquelles les TLD seront en fonctionnement. Donc, ICANN peut peut-être avoir une tendance à insister trop sur le cadre a priori et par contre détourner l'attention des plaintes et des mécanismes de respect des règles par la suite. Est-ce qu'il serait possible d'incorporer des règles qui soient aussi simples que possible avec des sanctions et des mécanismes de supervision, même si c'est un mécanisme qui tient compte d'un certain type de conduite inacceptable ou de fraude qui n'est pas attendue mais qui peut faire l'objet d'une action par la suite. Il ne faut pas rendre les choses trop compliquées dès le début, finalement, et plutôt insister sur le respect des règles. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont lu avec beaucoup d'intérêt, qui ont lu cela avec beaucoup d'intérêt. L'étude économique qui est sortie, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regrettent profondément que cela n'ait pas été fait il y a 3 ans, parce que ça aurait complètement changé l'approche générale des programmes de nouveaux GTLD. Nous allons maintenant évaluer l'impact de cette étude par rapport aux choses qui doivent changer ou qui pourraient changer. Mais spontanément, je voudrais soutenir la suggestion que John Nevett a faite. Et je ferai une analogie dans tout processus parlementaire. Nous avons un travail préparatoire énorme avant de rédiger un projet de loi. Alors ce travail préparatoire implique une pile de documents aussi haute que la Tour Eiffel. Mais ensuite, lorsqu'on rédige la loi, on essaie de faire quelque chose qui soit compréhensible et très concis. Et je me demande si le travail que nous avons réalisé avec le projet de guide, de candidat, tous les documents auxiliaires ne seraient pas l'équivalent de ce travail de préparatoire et ensuite le sommet, la conférence ou la session principale ne serait pas par contre l'occasion de produire le document de 20 pages qui contiendrait le régime pour l'évaluation des chaînes de caractères et l'évaluation des candidats à la délégation en tant que mécanisme de seconde instance et le mécanisme de post-délégation qui sont exactement ce dont nous avons discuté. Mais ce serait beaucoup plus facile pour vous de communiquer par la suite sur base de ce document de 20 pages. Si on pouvait examiner cette possibilité, ça me semble être une magnifique idée. Et vous savez, si j'ai un regret par rapport aux mises en œuvre, aux politiques mises en œuvre, c'est le fait que nous nous sommes vraiment beaucoup concentrés sur les cas limites dans nos débats et nos discussions et pas vraiment sur la manière, bon, sur les questions d'évaluation, les critères qui ont été bien sûr écrits avec beaucoup de soin et sur lesquels nous sommes constamment concentrés, mais pas vraiment, qui n'ont pas vraiment fait l'objet de débats très chauds dans des salles comme celle-ci. Je n'ai pas été claire. Les 20 pages, ce serait le régime. Pas les questions auxquelles il faudrait répondre, le processus. Les 20 pages seraient le résultat du travail que nous aurons réalisé. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Alors, Ray Polzak, un de nos membres du Conseil, a dit exactement la même chose que toi par rapport à la création d'un document simple, de normes simples qui soient faciles à mettre en œuvre lorsque nous avons une réunion avec nos décideurs politiques. Donc, il soit facile d'assurer l'application. Monsieur Palage? Palage Minjung Park. Est-ce que le personnel d'ICANN a été capable de trouver la référence dans le guide? Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Donc, à la suite de ce qu'a dit M. Vancouvering, parce que j'écris un article là-dessus qui rentre dans les détails du front-running sur les TLD, le favoritisme dans le domaine des TLD. Il y a des pays comme les États-Unis et la Grande-Bretagne qui ont examiné certaines marques commerciales et qui ont interdit certains enregistrements. Et dans mon étude plus récente, j'ai identifié plus de 100 demandes aux États-Unis, dans l'Union européenne et dans le monde entier, où les gens essayent clairement de conquérir le système, de tricher par rapport au système. Donc, je respecte la capacité de ICANN de refuser cette demande, mais cela ne répond pas à la question de ce qui se passe lorsque quelqu'un obtient un TLD, donc un nom de domaine de premier niveau, et lorsqu'une de ses parties n'essaye pas d'obtenir le TLD, mais en fait essaie d'extorquer de l'argent par l'application de ses droits dans un pays. Et je pense que c'est pour cela ICANN doit s'adresser au comité, au GAC, ainsi qu'à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et demander leur conseil, parce que ce sont des personnes qui sont des experts dans ce domaine, et ce serait vraiment très non nuisible si nous avions des gens qui essayaient d'appliquer les droits relatifs aux marques commerciales et retirer les TLD de cette zone. Ce n'est pas bon pour la sécurité et la stabilité. Alors sur ce point, pour continuer, un des commentaires à propos de l'ajout de certains noms à la liste de réserves, je pense que c'était l'ACT-TLD et d'autres. Alors moi, j'ai participé au groupe de travail sur les noms de réserve il y a 4 ans lorsqu'on a commencé à parler de ces noms de réserve, et à ce moment-là il a été dit clairement que ICANN ne devrait pas recevoir d'autres avantages que des propriétaires de marques commerciales n'ont pas, et que si ICANN se sent en confiance, se sent bien au niveau de la protection des marques commerciales pour un Yahoo, un Facebook, ils doivent aussi se sentir sur deux dans l'utilisation de ces mêmes droits. J'aimerais bien répéter un point que j'ai soulevé il y a plus de 4 ans. Il ne devrait pas y avoir d'exclusion. ICANN ne devrait recevoir aucun traitement préférentiel. Si elle maintient son engagement à recevoir un traitement préférentiel, je pense qu'il doit vraiment envisager d'élargir la liste de noms, particulièrement en tant que société sans but lucratif de droit californien. Les États-Unis ont adopté des lois concernant 70 termes désignés, y compris Red Cross, Leslie College et l'IOC a écrit à ICANN pour poser ces problèmes. Donc je pense qu'il faut être cohérent. Merci pour ces excellents commentaires, Mike. Hello Kurt, je voudrais discuter de la campagne de sensibilisation, de communication. Je dirige mon initiative depuis des années, et par rapport au point qui était soulevé par Michael Palage, je voudrais dire que j'ai une marque commerciale dans Dot Music, et nous travaillons depuis des années sur ces points-là, et nous essayons de communiquer ce que nous faisons au monde entier. Cependant, le DAG ne me garantit aucune justice, et pas plus qu'à tout autre demandeur. Alors, d'autres demandeurs dans le monde de musique pourraient arriver et dire « Payez-moi $400,000 pour travailler, nous ferons une vente aux enchères. » Alors, ce sont des scénarios qui peuvent se produire dans la vie réelle. Donc, il y a des choses qui doivent être prises en considération. Donc, si la sensibilisation et la communication sont importantes, peut-être dans le DAG, vous pouvez ajouter un point quelque part qui dise « Bon, si la candidature ou la demande de votre communauté En fonction de la stratégie de communication, de sensibilisation qui était mise en place par la communauté en question, mettons qu'on pourrait imposer une année. Alors si on a fait ça, on a un point supplémentaire, quelque chose qui récompense la communiqué, le travail de communication et de sensibilisation. Mon second point, c'est par rapport à la structure des honoraires à payer. Je sais que je suis très intéressée par différentes IDN, donc Dot Music dans différentes langues, que ce soit en russe ou en chinois. Le problème... c'est que j'ai regardé la structure des montants à payer et est-ce que ça veut dire que je dois payer 185 000 dollars chaque fois si c'est un GTLD IDN? Et pourquoi est-ce que les IDN CCTLD ne coûtent que 25 000 dollars? Où il y a eu une décharge de responsabilité lorsque j'ai fait une demande avec plusieurs chaînes de caractères et chacune a coûté 185 000 dollars. Je voudrais voir la structure d'honoraires, de coûts, et je voudrais savoir pourquoi je dois payer ce montant plusieurs fois. Je suis sûre que les sociétés, par exemple, VeriSign veut peut-être faire du .com, peut-être veulent-ils faire de l'info, je sais ce qu'ils font, mais je sais que certaines d'autres personnes ont la même préoccupation. Alors merci pour ces commentaires et pour ces questions. Nous reconnaissons la différence d'honoraires à payer entre les CCTLD et les GTLD, donc les montants à payer. Et en fait, c'est la première fois que ICANN a demandé une structure de prix des CCTLD pour récupérer les coûts. Je suis sûre, vous travaillez là-dessus depuis longtemps, que le nouveau prix GTLD est un prix qui permet de récupérer les coûts. Il est calculé de cette manière-là. Et il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup de risques. Nous prenons beaucoup de risques en tant que ICANN. Et c'est une entreprise pour ICANN qui va supposer pour notre environnement des niveaux de coûts très élevés. Et donc, à ce stade, c'est encore trop tôt et c'est très difficile pour ICANN de dire... Bon, si vous êtes la même entité qui demande pour un TLD, votre première chaîne de caractères vous coûtera 185 000 et la prochaine vous coûtera peut-être moins. Que ce soit une traduction d'un montant à payer, d'un coût, d'un prix, ou est-ce parce que vous êtes la même organisation, donc l'évaluation doit être rationalisée. Il y a beaucoup de manières pour les entités de combiner ou de réduire les prix qu'ils doivent payer. Donc, sans comprendre vraiment comment est le paysage, c'est difficile de comprendre les risques, c'est difficile de proposer une structure de prix hiérarchisée. Au début du fonctionnement, nous ne savons pas encore quel va être le statut des risques, mais je comprends ce que vous dites exactement parce que vous pouvez vous asseoir devant un tableau blanc et définir les coûts. Mais maintenant... Pour chaque CLD, il y a un prix différent. Donc, je comprends la quasi-frustration que vous exprimez. Ça fait longtemps que vous travaillez sur ce processus, que vous vous concentrez là-dessus. Vous investissez votre temps, vous renforcez votre nom, votre marque, mais vous donnez aussi vos efforts en tant que volontaire pour assurer que le processus soit aussi robuste que possible et aussi juste que possible. Je comprends que ce sera notre tâche de réfléchir à la manière dont ceux qui ont participé au processus pour être récompensé. Donc, merci beaucoup pour votre contribution. Rod Enders de Dot Sport LLC. J'ai suivi ce que Konstantinos a dit. Vous avez dit que les applications basées sur les communautés avaient une décharge, bénéficiaient d'une décharge. En fait, beaucoup de communautés parlent des langues multiples ou utilisent différents scripts. Et moi, j'utilise la communauté ICANN comme exemple. Nous avons traduit les documents ICANN dans de nombreux scripts pour l'avantage, pour que toute la communauté ICANN puisse en bénéficier. Donc, je pose la même question que mon collègue. Pourquoi est-ce que le personnel refuse d'appliquer les mêmes normes aux demandeurs de la communauté? Donc ce n'est pas simplement de récupération de coûts, de faire payer une seule communauté qui voudrait utiliser plusieurs scripts et leur demander 185 000 dollars pour chaque script IDM dont ils ont besoin pour leur communauté. Donc je pense qu'il faudrait réfléchir là-dessus aussi. Merci. Il nous reste 15 minutes, c'est vrai, c'est comme ça? 15 minutes, oui. Plutôt 10 minutes, en fait. Il y a une question de la part des participants en ligne, des participants à distance. Donc, Carla Valente qui parle au nom d'un participant à distance. David Cullen pose la question. Il est probable que des retards supplémentaires se produiront dans le nouveau processus de nouveau GTLD. Pourquoi les IDN GTLD peuvent-ils continuer à être finalisés malgré le processus GTLD, au moins dans les pays où IDN, où les CCTLD IDN sont vivants? La manière dont ça fonctionne maintenant est un avantage injuste pour la communauté. Bon, merci. Donc, même si c'est une déclaration, le processus rapide d'IDN et le processus de nouveau GTLD sont poursuivis aussi rapidement que possible et on prend toutes les précautions appropriées dans l'idée qu'on essaye qu'un processus ne retarde pas l'autre. Voilà, c'est là que nous en sommes. Est-ce que l'ICANN a accepté ce rapport économique ou pourra-t-il être remis en cause, remis en question? Alors, on dit que 90% des recherches sont faites en utilisant des engins de recherche. Et donc, ça veut dire qu'il y a une perte de coût pour les consommateurs. Oui, le rapport a été publié pour recueillir les commentaires du public. Si vous avez des données différentes, des chiffres ou des informations différentes, je pense que cela pourrait être utile pour enrichir le travail des économistes lorsqu'ils entameront la seconde phase de l'étude. Si vous pensez qu'il y a des faits qui sont des erreurs, je vous encourage à fournir vos sources d'informations. L'idée selon laquelle les moteurs de recherche fournissent des informations indéfinies, des informations bien définies. Google a vendu Louis Vuitton. Bonjour, David Taylor. Donc, pour revenir à la question de Philippe sur l'évaluation substantive dans la chambre de compensation, la clearinghouse des marques commerciales, je pense que ce qui est bien maintenant, c'est que nous avons réussi à inclure un grand nombre des pays et des marques commerciales européennes dans la version 4 du DAG, mais le fait que nous ayons l'évaluation substantive, si vous n'êtes pas un pays qui a une évaluation substantive, vous pouvez toujours entrer et jouer dans Sunrise. Donc vraiment, je me demande s'il y a une conséquence inattendue, si vous avez par exemple 600 000 marques commerciales d'une communauté et si vous n'êtes pas nécessairement un pays où il y a une évaluation substantive qui a lieu, donc c'est discutable, vous avez 600 000 marques propriétaires de marques commerciales qui doivent rentrer dans cette clearinghouse ou alors ils ne peuvent pas participer dans une période de Sunrise. Je pense que c'est assez fondamental parce que lorsque nous regardons les coûts, si vous cherchez un coût de, par exemple, si vous avez l'intention de payer $50, son chiffre, ce n'est pas possible de rentrer dans cette clearinghouse. Donc, le dernier commentaire, Carla Valente, j'ai une question d'un participant distant, George Kyrikos. Kyrikos, et la question, un instant.
I'm sorry, Kurt. It's just that it's.
George is going to smell a conspiracy.
I know.
Ça commence à sentir la conspiration.
Okay, I'm sorry. Here we are with the other two. I'm sorry, it's just moving the chat room. Hold on.
Yeah. Hey, Dan. Dan, does Carla need to...
Do you have that? Thank you. Thank you. So here's the question. Has anyone read...
Voilà la question. Est-ce que quelqu'un a lu le document de Tim Berners-Lee sur les nouveaux TLD qui sont considérés comme mauvais, néfastes? La réponse est oui. Eh bien voilà, c'est tout. Eh bien, je vous félicite tous pour le dur labeur que vous avez fourni pour nous amener à cette stade aujourd'hui. Je vous remercie de votre temps passé ici avec nous, de votre intérêt. Merci beaucoup encore une fois.